Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV et nous venons d'enregistrer un nouvel épisode de notre balado Le service politique avec Loïc Besson qui suit pour BFM TV la campagne de Marine Le Pen. Il revient d'un déplacement de 2 jours dans le Nord avec la candidate du RN et il va nous expliquer comment Marine Le Pen essaye de se présenter devant les Français pour les dernières semaines de la campagne comme la candidate du plein d'essence. Elle veut parler en premier lieu des conséquences économiques des sanctions prises après le début de la guerre en Ukraine. C'est le choix stratégique qu'elle fait pour les dernières semaines de l'élection présidentielle. Donc nous sommes le dimanche 13 mars, nous sommes à 42 jours du choix des Français et à 4 semaines exactement du premier tour de l'élection. Salut Loïc.
Salut Philippe.
Tu es de retour à Paris après avoir passé 2 jours dans le Nord avec Marine Le Pen qui mène campagne. On est à 4 semaines du premier tour. On avait été frappé il y a une quinzaine de jours quand la guerre a été déclenchée par le ton de Marine Le Pen qui soutenait le président de la République au nom de l'unité nationale dans un moment de crise, qui ouais. avait des propos qui étaient différents de ceux d'Éric Zemmour sur les réfugiés. Enfin, on a noté ça, ce ton qui avait pu surprendre au début du conflit, puisqu'elle était d'une certaine manière moins vindicative que certains n'auraient pu l'imaginer.
Absolument, oui.
Et on a vu, alors je ne dirais pas que c'est contradictoire avec ce qu'elle disait il y a 15 jours, mais on voit aujourd'hui que sur la guerre en Ukraine, elle veut être la candidate qui parle d'abord et parle peut-être le plus clairement des conséquences économiques pour les Français. Est-ce que tu penses que c'est un message, c'est une stratégie qui va de la sienne pendant les 4 prochaines semaines avant le premier tour, c'est-à-dire qu'elle veut d'abord être celle, d'une certaine manière, la candidate du plein d'essence?
Bah, déjà, oui, elle a pu surprendre par sa réaction au moment du déclenchement de la guerre, parce qu'elle a été très, très calme, entre guillemets, une stature responsable, c'est ce qu'elle voulait. Et déjà, ça, c'était la première étape, c'était pour se démarquer d'Éric Zemmour, puisque quand même, il y a encore quelques semaines, il me tenait quand même à peu près, peu ou prou, le même discours par rapport à la Russie de Vladimir Poutine. Oui. Ensuite, elle a très vite fait le constat que...
Elle devait aussi s'expliquer sur ses propos passés et sa rencontre avec Vladimir Poutine. Elle l'a fait hier sur BFM TV, juste après le lendemain de l'invasion de l'Ukraine.
C'est pour ça qu'elle avait anticipé ça et elle sentait bien que dans une crise, être en total contre-courant de l'opinion, ça allait pas marcher. Ensuite, elle a aussi très vite constaté que cette crise, elle bénéficiait politiquement largement au président sortant, Emmanuel Macron. Il y a cet effet drapeau qu'on voit dans les sondages. Il n'a jamais été donné aussi haut au premier tour, à plus de 30%. Et bon, bah évidemment, pour elle, il était hors de question non plus de lui laisser ce boulevard-là, parce que il y a la stratégie en face de la Macronie qui est de dire quand même que bon, l'élection est pliée, à la limite de ne même pas faire campagne, qui démobilise forcément les électeurs, et notamment ceux de Marine Le Pen. Donc il est hors de question pour elle de lui laisser ce boulevard-là. Et donc oui, elle commence à lui taper dessus, non pas en reniant ses positions. Elle dit par exemple qu'elle soutient les restrictions sur la Russie aujourd'hui, mais avec des limites quand même. Il y a une ligne rouge. Elle dit « Moi, je suis d'accord avec toutes les sanctions qui peuvent être imposées à la Russie, mais à condition que ce ne soit pas les Français qui paient. » Elle est persuadée que pour l'instant, tout le monde est on voit que l'opinion est largement préoccupée par la situation internationale, par la menace d'une guerre qui pourrait avoir encore plus d'ampleur. Mais elle est persuadée que d'ici la présidentielle, quand même, le sujet du pouvoir d'achat, qui en est la conséquence de ces restrictions, va prendre le dessus. Et donc aujourd'hui, elle mise tout là-dessus.
Oui, et c'est frappant quand on l'entend interview après interview. Elle très vite... Elle évoque cette question-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle imagine qu'il peut y avoir une forme de mouvement, de contestation, je ne dirais pas des gilets jaunes, mais de contestation sociale, de colère des Français liée à l'augmentation brutale du prix des carburants, ou c'est quelque chose plus diffus que ça ?
Elle fait d'ailleurs à chaque fois, quasiment dans chacune de ses interventions, un parallèle avec les Gilets jaunes, en rappelant que c'est quand même ce qui a déclenché ce mouvement, un prix des carburants trop cher, une hausse importante. Alors, des carburants, et puis elle élargit même à toutes les énergies, à l'électricité. C'est un sujet qui date de bien avant la crise ukrainienne, mais aussi du gaz. Alors ça, c'est lié à l'Ukraine. Et oui, elle soulève ça. Enfin, j'ai assisté à son meeting qui a duré près d'une heure à Bouchain, dans le Nord. C'était d'ailleurs un de ses plus grands meetings en termes de fréquentation, à l'exception bien sûr de sa convention présidentielle qui était son gros raout à Reims. Mais là, il y avait aux alentours quand même de 1000 personnes dans un petit gymnase qui n'a pas pu accueillir tout le monde. Il y en a beaucoup qui sont restés à l'extérieur, et comme c'est pas spécialement organisé comme des meetings, par exemple, d'Éric Zemmour, où il y a beaucoup de mise en scène, il n'y a pas d'écran à l'extérieur pour permettre à ceux qui ont été recalés parce qu'il n'y a plus de place de pouvoir suivre le meeting. Donc beaucoup tentaient d'écouter de l'extérieur sans même pouvoir la voir en vrai, parce qu'ils étaient coincés dehors, parce que la salle était vraiment pleine. Et clairement, dans tout son discours, elle a évoqué les sujets liés à la sécurité, à l'immigration, mais en un paragraphe seulement, enfin pas plus de 5 minutes sur un discours de près d'une heure, et tout était sur le pouvoir d'achat, sur regarder les prix, regarder comme les prix montent, 2 euros aujourd'hui, 3 euros demain, et ça va continuer, peut-être des prix de l'énergie multipliés par 7 dans quelques mois. Oui, elle appuie là où ça fait mal, elle appuie aussi sur les inquiétudes qu'ont déjà beaucoup de Français, qui voient leur pouvoir d'achat se réduire, qui voient l'inflation déjà, qui voient les produits... le prix des produits augmenter, et elle appuie là-dessus. Elle a même accusé certains de profiteurs de guerre. Alors, c'est vrai que lors du discours, on a tous eu le sentiment qu'elle visait là même Emmanuel Macron. Bon, ce matin, à Dunkerque, elle a dit que ce n'était pas lui du tout qui était visé quand elle parlait de profiteurs de guerre, mais plutôt de grandes entreprises, peut-être, qui profiteraient de cette crise pour augmenter leur marche.
Mais voilà, les profiteurs de guerre, c'est qui? C'est Total, ou c'est qui? De qui elle parle?
Elle n'a pas voulu expliciter. On l'a même interrogé ce matin encore. Est-ce qu'elle visait Total? Elle n'a pas voulu viser quelqu'un en particulier. Elle a plutôt dit, attention, c'est une mise en garde, parce que dans chaque guerre, il y a toujours des profiteurs, et il ne faudrait pas qu'il y en ait. En tout cas, il ne faudrait pas qu'on les laisse faire ici en France. Donc voilà, elle appuie là où ça fait mal, et elle espère peut-être aussi remonter, bien sûr, son électorat, et même au-delà, sur cette question-là, pour les mobiliser, bien sûr. Oui.
Parce qu'en fait, si on comprend bien sa stratégie, c'est qu'elle analyse que, et ça, c'est pas seulement lié à la guerre en Ukraine, que son score va dépendre de la mobilisation d'une partie des abstentionnistes qui, par exemple, n'étaient pas du tout allés voter au régional l'année dernière. Et c'est pour ça qu'elle a eu la mauvaise surprise de voir que, malgré de bons sondages, une bonne partie de ses électeurs ne s'étaient pas déplacés. Donc elle analyse que pour mobiliser des gens qui sont tentés éventuellement par l'abstention, ce thème-là, ce thème du pouvoir d'achat en général, des prix de l'énergie en particulier, sont mobilisateurs. C'est pas tellement qu'elle a essayé d'aller chercher des électeurs dans d'autres camps, c'est d'abord mobiliser un électorat qui peut-être pourrait se sentir apathique parce qu'une partie de ses électeurs se disent que l'élection est déjà jouée et que le président va être réélu.
Oui, bien sûr, d'abord les siens, et puis on voit que c'est un sujet beaucoup plus mobilisateur que, par exemple, la lutte anti-pass contre le pass sanitaire, au moment où on parlait beaucoup plus de Covid, qui mobilisait pas ses électeurs. Enfin, c'est ce que montraient les études d'opinion, c'est pas ça, au contraire, qui les emmenait vers le bureau de vote. C'est vrai que, et ça date d'avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine, mais Marine Le Pen, dès qu'elle voit... lorsqu'elle est dans son véhicule, dès qu'elle voit une station-service où elle voit des prix qui déjà atteignent des records ou qui sont assez hauts, je sais que ça lui est déjà arrivé de demander à son chauffeur, quitte à de faire demi-tour pour s'arrêter sur la zone, pour pouvoir prendre une photo, pour pouvoir ensuite demander à ses équipes de la diffuser sur les réseaux sociaux. Elle a vraiment l'œil là-dessus, elle a ce prisme-là sur le prix des énergies, sur le prix du pouvoir d'achat, parce qu'en plus elle avait fait ce pari-là dès le mois de septembre, où elle avait eu ses affiches, ses slogans, rendre aux Français leur argent. Et donc, elle mise tout là-dessus. D'autant qu'elle fait le constat aussi que finalement, les deux qui s'en sortent de cette crise dans les sondages, c'est bien sûr Emmanuel Macron, on en a parlé. Elle aussi, en tout cas, elle ne chute pas, elle se maintient, contrairement à tous les autres. C'est ce qui lui permet pour l'instant de grandir l'écart entre elle et Éric Zemmour ou Valérie Pécresse.
parce qu'elle dit les Français, ils voient la constance de nos positions, qu'on soit d'accord ou pas, que ce soit Emmanuel Macron ou elle, chacun dans son camp, mais elle estime que c'est un gage quand même de solidité et donc que ça lui permet à elle de s'en sortir positivement de cette crise.
Oui, dans 4 semaines, le soir du premier tour, lorsqu'on regardera le résultat, on pourra et qu'on verra si Éric Zemmour ou Marine Le Pen est qualifié pour le second tour, on pourra revenir en arrière et avant même la guerre en Ukraine, jusqu'au mois de d'août-septembre, quand ils ont fait un choix stratégique divergent, différent, assez net. C'est-à-dire que d'un côté, Éric Zemmour qui pensait que la question de ce qu'il appelle la guerre des civilisations était centrale et était l'élément central de cette campagne électorale, et Marine Le Pen qui, elle, avait misé et c'était présent dès le mois de septembre sur la question du pouvoir d'achat et c'était bien avant la guerre en Ukraine. Puisque tu parlais de la station essence, là, du fait que Marine Le Pen s'arrête parfois dans les stations essence, c'est que Marie Gentric, qui suit le déplacement d'Éric ouais. Zemmour aujourd'hui en Occitanie, nous a montré tout à l'heure des photos, elle nous a mis ça dans la boucle WhatsApp du service, des photos d'Éric Zemmour s'arrêtant à une station service pour discuter avec les clients. Et il se trouve qu'au moins un des clients avec lequel il s'entretient à la station-service est un sympathisant qui était présent, qui a suivi tout son déplacement, qui a pris des photos d'ailleurs avec Marion Maréchal, que ouais. Marion Maréchal a posté sur les réseaux sociaux. Enfin, ça ressemblait, en tout cas pour ce client-là, une mise en scène pour les caméras.
Ouais. C'était assez stupéfiant. D'ailleurs, Marine Le Pen, elle a eu un mot en privé ce matin en découvrant la nouvelle affiche d'Éric Zemmour avec Marion Maréchal. Oui. Avec Marion Maréchal, justement. Elle a un peu pouffé en la voyant. Elle estime que c'est un aveu de faiblesse quand même, alors qu'une présidentielle, c'est la relation directe entre un candidat et les Français, de devoir faire appel à une autre figure. Ça montre qu'on est affaiblie, et puis elle a eu ce petit tacle. Quand on plaide la France éternelle, on fait pas un ticket à l'américaine avec un duo. C'est voilà. Elle oublie quand même jamais dans un coin de sa tête Éric Zemmour.
Il y a quand même un écueil, on l'évoquait tout à l'heure, mais il y a un écueil, ou plutôt un pari très risqué pour elle, c'est que si des millions de Français ne se raccrochent jamais à cette élection présidentielle, ne vont pas voter et que l'abstention est beaucoup plus haute cette fois-ci qu'elle l'était il y a 5 ans ou il y a 10 ans, le risque c'est qu'une bonne partie de l'électorat populaire n'aille pas aux urnes. Et c'est une préoccupation aussi pour Jean-Luc Mélenchon, qui partage ouais. cette préoccupation avec Marine Le Pen. Si une bonne partie de l'électorat populaire se dit « au fond, il y a la guerre, le président va être réélu mécaniquement, à quoi bon aller voter ?» Si cet électorat ne va pas aux urnes, ses intentions de vote dans les sondages seront peut-être démenties par le résultat des urnes au premier tour, et elle sera peut-être beaucoup plus, ou plutôt Éric Zemmour et Valérie Pécresse seront peut-être beaucoup plus proches d'elle qu'elle n'imagine, voire devant, et ça pourrait être une déconvenue pour elle. Est-ce qu'elle joue pas de façon un peu trop, est-ce qu'elle n'est pas en train de se dire qu'elle est bien placée pour être au second tour, et est-ce qu'elle n'est pas trop confiante à ce stade?
Elle a fait un pari, ça c'est sûr. Elle a décidé de ne pas en dévier, quand certains, même dans son camp, la pressaient peut-être de changer de stratégie. Elle a décidé de se faire confiance. Après, elle le dit elle-même. Non, elle n'est pas... Elle pense, évidemment, et en même temps, tous les candidats diront ça, ou quasiment tous, être au second tour, mais non, elle a conscience quand même qu'elle peut avoir une surprise à ce niveau-là, parce qu'en effet, tout dépend de la participation de son électorat, ceux qui se mobilisent en dernier, les classes populaires, mais aussi les jeunes. Et c'est pour ça que le sentiment de dire qu'on entend beaucoup cette petite musique, que bon, de toute façon, là c'est sûr, l'élection est pliée, le président va être reconduit quasi automatiquement parce qu'il atteint des niveaux records dans les sondages, parce qu'il y a la guerre. Elle veut vraiment faire le contre-discours là-dessus, dire justement, certains voudraient faire croire que c'est plié, toujours en invoquant un système derrière, en invoquant bien sûr le président de la République. Et elle leur dit, mais ne laissez-vous pas avoir, justement, faites attention, parce que le pire est à venir, elle le dit, sur le prix d'énergie, sur le prix même de tout le panier d'alimentation. Et elle joue vraiment là-dessus, elle dit, attention, ne vous faites pas entuber, entre guillemets, pour être vulgaire, mais sous-entendu, on veut profiter de votre démobilisation, donc mobilisez-vous. Elle veut prendre ce contre-discours, et elle parle beaucoup de pouvoir d'achat, mais aussi elle appelle toujours à la mobilisation. Elle le disait encore sur le marché ce matin, et aux gens qui disent merci, on va voter pour vous, on espère que vous serez élus, elle leur dit à chaque fois, même à eux qui semblent pourtant être des gens convaincus, oui merci, je veux bien, mais n'oubliez pas Restez pas à la maison, surtout, faites-le vraiment, allez voter, ne restez pas à la maison, parce que oui, elle sait que c'est sa principale menace pour elle et qui pourrait tout changer, ce qu'on voit dans les sondages, et qui pourrait être une vraie mauvaise surprise.
D'autant que dans une configuration très différente, en 2007, c'est frappant, elle avait dans les sondages perdu beaucoup d'avance parce qu'elle était donnée première au premier tour jusqu'à l'avant-veille de l'élection, la semaine du premier tour en tout cas. Elle avait beaucoup perdu de terrain dans les quatre dernières semaines avant le premier tour, savoir que les quatre dernières semaines, y compris la période d'égalité et de temps de parole, sont difficiles.
Ouais, et à la limite, ce qui l'arrange peut-être, ou en tout cas c'est comme ça qu'elle voit les choses, on sait jamais si ça l'arrange vraiment ou si elle préfère se dire que ça l'arrange, mais c'est maintenant la progression de Jean-Luc Mélenchon qui apparaît comme le vote utile à gauche qu'on a vu cette semaine troisième homme dans plusieurs sondages, et elle espère que ça aussi, ça peut lui bénéficier à elle, en clarifiant en quelque sorte les choses, le camp d'Emmanuel Macron d'un côté, le camp de Jean-Luc Mélenchon, et puis elle qui estime incarner une troisième voie. L'un de ses stratèges a théorisé ça et me dit, voilà, on arrive maintenant dans la campagne M&M's, Marine, Macron, Mélenchon, c'est notre campagne qui commence,
Marine,
on est débarrassé.
Macron, Mélenchon.
Ouais, voilà.
J'avais jamais entendu ça, d'accord.
La campagne M&M's. et entre guillemets, c'est une nouvelle campagne. Elle ne se bat plus maintenant dans cette primaire sauvage avec Éric Zemmour et peut-être même aussi Valérie Pécresse. Elle estime être entrée dans quelque chose avec toujours une menace, parce que d'autant qu'on peut estimer aussi que Jean-Luc Mélenchon peut lui prendre une part de son électorat quand même en quelque sorte.
Électorat populaire.
Électorat populaire, oui, mais voilà, elle estime que. Il y a encore du travail, mais que les choses sont peut-être plus claires maintenant et qu'elle incarne le vote utile dans le camp national, dans le camp nationaliste, qui peut lui rapporter donc quelques voix.
Merci Loïc.
À bientôt.
Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve demain pour vous expliquer les règles du temps de parole, les règles auxquelles sont soumises les antennes de radio et télévision pendant la campagne électorale. Les règles actuelles, d'ailleurs, ne sont pas les mêmes que celles qui seront appliquées dans les 15 derniers jours avant le premier tour. C'est assez complexe et même les candidats eux-mêmes ne les comprennent pas toujours très bien. Et pourtant, ça a des conséquences très concrètes sur la manière dont ils peuvent faire campagne. Il y a tout un jeu aussi d'utilisation de son temps de parole, ne pas gâcher trop tôt son temps de parole. Enfin voilà, ça a des conséquences sur le rythme de la campagne. On vous expliquera tout ça dans cet épisode demain matin. Merci.